morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Prevere.
Bonjour à tous, bonjour Manon.
Bonjour Stéphane.
Il est 9h50, vous êtes bien sur Radio Prévert et c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle matinale comme chaque mercredi. Au sommaire ce matin, on va parler cinéma, musique, histoire et médias. Et on commence tout de suite par faire un point sur l'actualité. C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. Après un début de semaine gris, les perturbations se poursuivent. Météo France nous prévoit donc de nombreuses averses de pluie sur l'ensemble du département. L'atmosphère se radoucit. On attend 11 à Châlons, 12 à Paray-le-Monial et Mâcon et 13 la maximale à Louhans. Dès jeudi, le soleil fera son grand retour en Saône-et-Loire. Néanmoins, un retour éphémère. Et pour cause, la pluie sera de la partie dès vendredi. Les températures resteront assez fraîches, elles seront comprises entre 8 et 10 degrés. Les deux jours suivants, c'est un week-end de Pâques nuageux et pluvieux auquel il faudra s'attendre. Quelques éclaircies devraient cependant venir égayer le ciel. Le mercure, quant à lui, sera en hausse avec des maximales à 13 degrés dimanche. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec l'actualité du jour. Ce matin, dès 11h30, un hommage national sera rendu au gendarme Arnaud Beltrame, tué dans les attentats de ce vendredi. Le lieutenant-colonel a perdu la vie en se substituant à une civile lors de la prise d'otage du Super U de Trèbes par un terroriste. La cérémonie se tiendra aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron, où ce dernier prononcera un éloge funèbre. La famille du défunt et des trois autres victimes des attaques terroristes de Carcassonne et de Trèbes seront présentes. La cérémonie sera ouverte au public. 6 jours après le drame, l'émotion reste encore vive. On poursuit avec ce drame qui a touché la Russie ce dimanche. Un terrible incendie avait alors ravagé un grand centre commercial de la ville de Kemerovo. À l'heure actuelle, le bilan fait état d'au moins 64 morts, parmi eux 41 sont des enfants, et le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir de jour en jour. Le feu avait alors pris dans un cinéma du bâtiment. Les premières causes de ce drame humain ont été évoquées. D'après les enquêteurs, les issues de secours étaient fermées et il n'y avait aucun système d'alerte pour avertir les clients du centre commercial du début de l'incendie. Et pour terminer, plus sereinement, hier Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle mesure phare concernant la scolarité. Celle-ci sera obligatoire dès 3 ans à partir de la rentrée 2019 contre 6 ans actuellement. Le gouvernement souhaite ainsi faire de l'école un lieu d'égalité et mettre en avant une reconnaissance de l'école maternelle. L'enjeu est également tourné vers l'acquisition du langage et de l'épanouissement de l'enfant. Cette mesure ne concernera qu'environ 26 000 enfants, puisque 97% d'entre eux sont déjà scolarisés dès 3 ans. Voilà, fin de ce flash, on poursuit avec toi Manon. On ouvre une page 7e art sur Radio Prévert et tu vas revenir sur le film La Forme de l'eau, qui est sorti il y a quelques semaines dans les salles obscures.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9. Nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique cinéma. Aujourd'hui, nous allons aborder un film sorti il y a peu dans les salles et qui a su rafler bien des récompenses. Pour moi, ce long métrage ressemble un peu à un film du style La Belle et la Bête. Nous allons donc aborder La Forme de l'eau, ou The Shape of Water en anglais. Plongeons tout de suite dans ce film.
Thank you.
La forme de l'eau est sorti dans les salles en France le 21 février 2018. Il a été réalisé par Guillermo del Toro, connu pour ses films à succès comme Hellboy ou Pacific Rim. On retrouve dans ses films Sally Hawkins, Michael Shannon ou encore Richard Jenkins. Le genre de ses films s'inscrit dans le fantastique, le drame et la romance.
Alors Manon, est-ce que tu peux nous faire un peu saliver? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce film?
Bien sûr Stéphane, j'allais y venir. Alors que les États-Unis sont en pleine guerre froide avec la Russie, une jeune femme du nom d'Elisa travaille comme femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental de Baltimore. Cette jeune femme solitaire et muette vit sa vie isolée de tous, avec comme seuls amis sa collègue Zelda et son voisin de palier, Gilles. Sa différence est accrue du fait de marques qu'elle possède au cou et dont personne ne connaît l'origine. Malgré tout, la jeune femme parvient à vivre correctement. Un jour, le colonel Richard Strickland revient d'Amérique du Sud avec une étrange créature amphibienne qu'il laisse au laboratoire. Elisa ne tardera pas à tomber sur celle-ci.
Si je vous parlais d'elle, la princesse sans voix, que vous dirais-je ?
Eliza, dépêche ! Eliza, viens vite, viens vite.
Elle est sourde ?
Muette, monsieur. Elle vous entend.
Vous nettoyez ce labo, vous sortez.
Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe.
Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai ? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça ?
Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions.
Quand il me regarde, il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.
Les indigènes d'Amazonie le vénéraient comme un dieu.
Le faire sortir ? Qu'est-ce que vous racontez ? Non !
Il faut le désosser, on étudie son fonctionnement.
Je refuse qu'une chose aussi belle et complexe soit détruite.
On ne peut rien faire, je suis désolé.
Ne fais pas ça, Eliza.
Dites-moi ce qu'elle vient de dire.
Ne fais pas ça.
Ce n'est même pas humain.
Si je vous parlais d'elle, que vous dirais-je? Je me le demande.
Eh bien Manon, justement, tu nous parles du film ce matin, mais aurais-tu des anecdotes comme on a l'habitude de le faire chaque semaine ?
Bien sûr, j'en ai trois. La première anecdote. Ce film est le lauréat du Lion d'Or à la Mostra de Venise 2017. La forme de l'eau a également récolté 2 Golden Globes, donc ceux du meilleur réalisateur et de la meilleure bande originale, ainsi que 13 nominations aux Oscars. Deuxième anecdote. La forme de l'eau marque la 7e collaboration entre Guillermo del Toro et Doug Jones. L'acteur est habitué à incarner des créatures, puisqu'avant l'amphibien, il a notamment interprété un vampire dans la série The Strain, Abbé Sapien dans Hellboy et sa suite, le faune dans Le Labyrinthe de Pan et le fantôme de Lady Sharp dans Crimson Peak. Toujours en restant sur cet acteur, on arrive à la troisième anecdote. 4 costumes de l'amphibien ont été mis au point par l'équipe, tous pouvant être entièrement plongés dans l'eau. Malgré les efforts déployés par l'équipe, le costume était très contraignant pour Doug Jones, car il était très près du corps et comprenait des corsets à l'intérieur. Il fallait pas moins de 4 personnes pour l'aider à enfiler la tenue. L'acteur témoigne « Je savais que ce serait le rôle le plus exigeant de ma carrière sur le plan physique, et ça m'a motivé. Le simple fait de porter le costume dont la mousse de latex de caoutchouc et le silicone ont été conçus pour revenir systématiquement à la forme dans laquelle ils ont été sculptés était en soi une intense séance de sport, car chaque mouvement revenait à faire une pompe ou une traction. » Une fois le costume sur lui, le comédien subissait 2 à 4 heures de maquillage.
Et Manon, peux-tu nous donner ton avis sur la forme de l'eau ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que tu as aimé ?
Pour commencer, ce film m'a tout de suite attiré de par sa bande-annonce. Quand on la regarde, on se retrouve intrigué et assez curieux de savoir ce qui se passe dans ce film. En plus, autant le dire, l'affiche du film est magnifique. On voit déjà ici un pré-travail à l'arrivée du film. De manière large, le film est beau, le scénario est bien ficelé et les acteurs sont bons. On se retrouve donc aspiré dans l'histoire. Il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyé en le regardant. C'est pour dire. De A à Z, on reconnaît la patte de Guillermo del Toro qui a su apporter ce film un souffle de fraîcheur et d'originalité. Maintenant, entrons plus dans le vif du sujet. Au niveau des couleurs, on retrouve des teintes allant du bleu au vert. On est donc dans les domaines aquatiques tout du long. On ne remarque d'ailleurs pas de couleurs chaudes, ou en tout cas, elles sont assez ternes. C'est simple, tout est froid. Comme l'eau donc. Du côté de la luminosité, on voit un très bon jeu de lumière qui sait bien mettre les acteurs en harmonie avec le décor. Décor qui a été extrêmement travaillé pour ce film. Je vous conseille d'aller regarder les derrière des coulisses, car vous pourrez voir tout le travail qui a été apporté au niveau des décors. Bon, après là je pense à la scène où Lisa va vers le tube de verre où elle voit à l'intérieur l'amphibien, car cette scène est extrêmement intéressante. Les jeux de lumière apportés par exemple dans le tube de verre sont extrêmement beaux. Les couleurs sont belles et c'est un passage très émouvant du film. Ensuite, au niveau des acteurs et personnages, je trouve le casting très bon. On retrouve une fois de plus donc Doug Jones pour la créature. Le travail qu'il a fait sur celle-ci est vraiment très bon, tout comme Sally Hawkins qui a su insuffler à son personnage tout plein d'émotions. En parlant de celle-ci, le film tire une partie de son originalité du fait que le personnage féminin principal est muet. On sent tout le travail que Sally a porté autour de son personnage. Je dirais même que malgré que le personnage soit muet, il y a la possibilité de le comprendre rien qu'avec les sentiments qu'il dégage. Sally a donc réalisé là un exploit. Une autre petite anecdote à dire comme ça à côté, c'est que Sally, donc l'actrice, a appris le langage des signes spécialement pour ce film. Le jeu des acteurs est donc vraiment un des points forts du film. Il n'aurait pas été pareil s'il n'avait pas été aussi bon, clairement. Parlons du scénario. Dans ce film, on ne peut pas dire que cela soit cousu véritablement de fil blanc, mais on devine facilement les choses. Ce point-là m'a un peu déçu, il y a moins de suspense qu'attendu. Or cela, l'histoire de ce film est vraiment bonne et originale. On fait vraiment face à une œuvre qui a été longuement pensée et repensée. Bref, un nouveau chef-d'œuvre de Guillermo del Toro. C'était Cine News sur Radio Prévert 105.9.
Merci Manon, on poursuit en musique sur l'antenne de Radio Prévert. On écoute maintenant Maroon 5, Superbus et Pink. On parlera dans la deuxième partie de cette émission Musique Toujours, en revenant sur le duo américain 21 Pilots et sur ses morceaux dits de pop schizophrène comme leurs fans les catégorisent. Et on ouvrira une page Histoire avec Manon. Restez connectés, à tout de suite. Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Emergency room. Where's the fucking emergency room? Just tell me. Where is it? Where is it?
I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations.
1 milligram of happy guy.
Yeah. musique. Les souris ne font que des clics. T'apprends plus l'anglais à l'école. Et on n'a plus vraiment d'idole. Alors on publie, on achète. On tag, on download, on accepte. Le monde est léthargique. Juste le doigt sur le clic. Rien de nouveau à l'école. Alors on veut devenir l'idole. Et on oublie, on delete. On voit qu'on a des, on accepte. Y'a plus d'antenne, mais des amis à la chaîne. Un père à la chaîne, mais des amis à la chaîne. Des alliés aliens et des prisons dans la plaine. T'as plus de peine.
to school for cool. And you treat it like a fool. You can choose to let it go. We can always party on our own.
So raise your so raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all my underdogs. We will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all my underdogs. We will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come and
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. De retour sur l'antenne de Radio Prévert 105.9, en direct toujours. On poursuit en musique dans cette matinale et aujourd'hui on va revenir sur un duo américain à succès, c'est 21 Pilots, qui a notamment battu un record il y a quelques semaines. Music Time, votre magazine sur les dernières nouvelles et sur l'histoire de la musique. Alors si ce matin on ouvre une page consacrée au groupe 21 Pilots, c'est que le binôme a battu tous les records avec leur dernier album sorti en 2015. Et en effet, c'est la totalité des 14 chansons qui composent Blurryface, c'est son nom, qui ont été certifiées or, voire même platine, du jamais vu. L'occasion pour nous de retracer leur ascension fulgurante sur la scène internationale.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Stress Out, c'est ce nouveau morceau, sorti en 2015, que vous connaissez forcément tous, qui a permis à 21 Pilots de connaître une renommée mondiale. Le clip tourné dans l'Ohio rencontre un franc succès auprès des internautes. La vidéo a cumulé à l'heure d'aujourd'hui plus d'un milliard de vues et fait partie des 20 vidéos les plus likées sur YouTube. Le single est le troisième morceau diffusé, annonçant alors la sortie dans les bacs de leur quatrième opus pour mai 2015. Ils publient aussi auparavant les titres Fairly Local et Tear in My Heart.
Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how she's a tear in my heart.
La musique évoque les relations amoureuses, parfois complexes. Tyler, le chanteur de la bande, aime une femme avec qui il a vécu de beaux moments, mais celle-ci le quitte soudainement. Il souffre alors énormément. C'était cette personne qu'il avait toujours rêvé. Pour lui, à travers ce titre, la seule chose qui nous rappelle que nous sommes en vie, c'est la souffrance de la séparation. Cette douleur d'aimer quelqu'un lui rappelle constamment qu'elle est vivante. Outre le texte, je vous conseille vivement de regarder le clip qui est très bien fait et très énergique, où les deux protagonistes sont pris de folie. L'album est finalement publié le 17 mai 2015, soit quelques jours avant sa sortie officielle initialement prévue pour le 19 mai. Dès la première semaine, le public est au rendez-vous. L'opus est vendu à près de 140 000 exemplaires. Cet album atteint donc rapidement la première place du Billboard 200. Ce classement hebdomadaire établi par le Billboard Magazine qui met en avant les 200 meilleures ventes d'albums aux États-Unis. Le groupe lance ainsi sa tournée mondiale sous de très bonnes auspices. C'est aux quatre coins du globe que les deux membres vont aller fouler les salles de concert. Ils passent par les États-Unis bien sûr, mais aussi le Canada, l'Australie, l'Asie, le Japon ou encore l'Europe. Le succès est tel qu'à deux reprises, la tournée joue les prolongations avec l'ajout de nouvelles dates. Outre les trois premiers singles, d'autres titres et surtout leurs clips qui les accompagnent, tout aussi emblématiques, vont amener le duo originaire de l'Ohio encore plus haut dans leur success story. D'abord le morceau Heavy Dirty Soul qui est très mélancolique. Tyler met en avant à travers son personnage que tout n'est pas perdu malgré tous les problèmes auxquels il est confronté. Cependant, la mort est comme une montée d'adrénaline pour lui et elle lui semble bonne sur l'instant présent. Mais quand il y pense, ça devient presque effrayant. Le personnage se montre fort mais en réalité il est très émotif. Les idées suicidaires sont présentes, il a besoin d'être sauvé. De manière plus globale, l'album semble refléter le cerveau de Tyler, le chanteur du groupe. Autre musique, Ride, malgré un son plutôt entraînant, joyeux, le texte est une nouvelle fois très sombre. Elle met en avant le fait de se laisser mourir à petit feu. Le personnage est alors conscient de sa chute, mais en vient même à en fantasmer et à accepter cette situation de mort prochaine. Son état mental et physique se dégrade et est alors affaibli. Encore un titre qui demande qu'on prenne quelques temps pour réfléchir. On en écoute un extrait dès à présent. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Récemment, début mars, l'album Reface, où l'on retrouve ces morceaux, a battu un record historique. Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque titre a été vendu au moins 500 000 exemplaires aux États-Unis. D'après l'Association américaine de l'industrie du disque, c'est la première fois que toutes les chansons d'un même album obtiennent ce statut. L'album, quant à lui, est certifié triple disque de platine, autrement dit, il a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Mais en février 2017, après des années au sommet des charts, une annonce va semer le trouble chez les fans du monde entier. 21 Pilots annonce la fin de l'ère Blueface. Un mystérieux événement crypté est alors diffusé sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, un nouvel album serait, semble-t-il, en préparation pour la fin 2018, début 2019. Mais quant à ces spéculations, le groupe reste mystérieux, comme il en a l'habitude. 21 Pilots se forme en 2009 à Columbus, dans l'Ohio. Trois camarades de classe, alors lycéens dans le même établissement, Tyler Joseph, Nick Thomas et Chris Sally, se réunissent alors pour pratiquer leur passion commune, la musique. Tyler Joseph, l'auteur des textes et figure emblématique encore aujourd'hui, trouve comme nom de scène 21 Pilots. Leur dénomination provient d'une pièce de théâtre, All My Song, d'Arthur Miller, qui raconte l'histoire d'un homme qui se suicide après avoir causé la mort de 21 pilotes, 21 pilots en anglais, vous l'aurez compris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après de longs mois de travail, fin 2009, le trio publie leur tout premier album éponyme et débute leur première tournée sur les routes de l'Ohio. À cet instant, personne ne sait encore que 21 Pilots va devenir l'un des plus grands groupes américains au monde, quelques années plus tard. En 2011, les visages du groupe changent, Nick Thomas et Chris Sally quittent la formation, Tyler Joseph est alors rejoint par Josh Dunn, ancien batteur de House of Heroes, un groupe de rock des années 90. Sans plus attendre, le duo se met au travail et le second opus, Regional at Best, est disponible à l'été de cette même année. Leur premier concert va attirer l'attention de nombreux labels et des plus grands dans le monde de la musique. Ils collaborent ainsi avec Greg Wells, producteur d'Adele et Katy Perry. En 2013, 21 Pilots sort donc Vessel. Il reste dans la même lignée que les albums précédents. Ce troisième disque rencontre un franc succès puisqu'il se classe notamment 10e du classement alternatif très populaire outre-Atlantique. Les textes restent assez sombres et les messages, souvent liés à la dépression par exemple, à la maladie et au cancer avec le titre qui porte le même nom, à la foi chrétienne également avec le morceau Trees, ou encore au suicide. C'est le cas notamment avec le titre Trust, qui met l'accent sur le combat à mener pour éviter de commettre un acte de non-retour, un acte irréparable, et où il faut apprendre à se battre face à cette envie de disparaître pour toujours.
I will fear the night again. I hope I'm not my only friend. Stay alive, stay alive for me. You will die, but now your life is free. Day bright.
Néanmoins, les titres Holding On To You, Car Radio ou encore Guns For Hands, qui lèvent des sujets lourds, sont mélodiquement plus joyeux. Ils font un tabac. On écoute tout de suite un extrait de Guns For Hands.
One song, this one rhyme. Together, let's breathe. Together, to the beat. But there's hope out the window. So that's where we'll go. Let's go outside and all join hands. Mine too, then you'll never understand. Let you all.
La dépression et le suicide sont encore en ligne de mire, à la différence que le morceau met en lumière le manque d'aide apportée à ces personnes dont le besoin est grand pour s'en sortir. À travers ces morceaux, le duo traite aussi des sujets comme les relations amoureuses, mais aussi des relations familiales. Avec le très touchant titre House of Gold, c'est l'histoire d'une mère qui supplie à son fils de rester à son chevet et de prendre soin d'elle. Quand personne d'autre ne peut le faire, le fils est alors tiré entre la famille et sa propre vie.
Let's say we up and left this town and turned our future upside down. We'll make pretend that you and me lived ever after.
Récemment, avec leur triomphe avec Blurryface, le groupe enregistre Ifun en 2016. Ça sera alors la bande-annonce du blockbuster Suicide Squad qui met en avant le récit de Super Vilain. un titre écrit par le leader Tyler Joseph qui va une nouvelle fois étendre le public de 21 Pilots. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sad in moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Alors vous l'aurez sans doute remarqué à travers les morceaux extraits des morceaux que nous vous avons diffusés, difficile de mettre un genre musical sur l'univers de 21 Pilots. Et pour cause, c'est un éventail très éclectique que le tandem nous présente. Il nous propose des sons très reggae, très électro, en passant par le rock, la folk, la pop ou encore la poésie. Pour composer leur titre, là encore, c'est tout autant atypique. Ils utilisent des instruments à cordes comme la basse et le ukulélé, mais aussi le piano jusqu'aux percussions et la batterie. Aux États-Unis, certains fans dénomment leur genre comme étant de la schizoïde pop, autrement dit de la pop schizophrène, car ils mélangent plusieurs genres. À travers leurs morceaux, toujours, on remarque rapidement que les textes et les messages sont souvent assez sombres. Les sujets comme la dépression, la solitude, le suicide, la maladie ou encore la mort sont abordés. Cependant, les mélodies sont incroyables et les messages que souhaite faire passer le groupe sont puissants, difficile d'y rester insensible. Autre excentricité, leurs concerts. Et en effet, les deux acolytes sont totalement déchaînés sur scène, de véritables boules d'énergie et de folie. Leur style vestimentaire ne passe pas non plus inaperçu, bonnet et chaussettes rouge vif, mains et cou peints en noir, le maquillage rouge de Josh le batteur ou encore la veste fleurie hawaïenne de Tyler. C'est sans doute pour toutes ces raisons que 21 Pilots est suivi par des millions de personnes dans le monde entier. Des messages sincères, un style atypique, de l'authenticité et de la fougue. Et ça se voit car c'est au total 18 récompenses et 50 nominations partout autour du globe que le tandem comptabilise. Voilà, on arrive au terme de cette chronique musique. On va donc garder un œil quand même sur la sortie d'un prochain album éventuel de 21 Pilots. Et on ouvre désormais une page histoire avec toi Manon, toujours en direct dans la suite de cette matinale sur l'antenne de Radio Prévert. C'était Music Time sur Radio Prévert 105.9.
Nom de Zeus, votre rubrique Histoire, mythes et légendes. On se retrouve pour une nouvelle chronique Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à quelqu'un qui a su laisser son empreinte dans l'histoire. Je parle de Léonard de Vinci, ou autrement appelé Leonardo da Vinci, en italien. Commençons à apprendre tout autour de lui. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 au village de Vinci en Toscane. Eh oui, Léonard de Vinci, parce qu'il est de Vinci. Eh oui, il est l'enfant illégitime d'une mère servante et paysanne et d'un père notaire aisé et reconnu. Ce n'est pas une situation facile pour lui. Deux personnes ont été très importantes pour lui. Sa grand-mère et son grand-père, ce sont eux qui l'ont élevé. Son grand-père lui disait d'ailleurs souvent « ouvre l'œil ». Et Léonard est connu pour son grand sens de l'observation. Je pense qu'on peut y voir un lien. Son éducation était assez libre. Étant un enfant illégitime, dit bâtard, il n'a pas le droit à une éducation humaniste comme certains étaient amenés à le penser. C'est en observant la nature, qu'il aimait d'ailleurs beaucoup, qu'il créera sa première œuvre. En fait, il va décorer une ronde arche, qui est une sorte de petit bouclier, sur la demande de son père. Il va prendre la peau de différents animaux qu'il va assembler et les disposer dessus. Le tout sera tellement effrayant que son père aurait crié de peur en la voyant. Suite à cela, son père est convaincu que son fils a du potentiel. Il l'emmène donc à Florence, qui à l'époque est en avance sur son temps, le précurseur de la Renaissance. Ils sont en avance sur l'art, la recherche et plein d'autres choses. Le père va donc placer son fils dans l'atelier le plus prestigieux de la ville, la Bottega de Maître Verrocchio. C'est l'atelier officiel des Médicis. Donc si vous ne connaissez pas les Médicis, sachez que les Médicis sont une famille de banquiers hyper renommée à l'époque. On peut d'ailleurs penser à Catherine de Médicis qui aurait quand même été mariée à un roi de France. Dans cet atelier, il apprendra à peindre, à fondre le bronze, à fabriquer des machines de théâtre, à souder des pièces métalliques et plein d'autres choses. Là-bas, il devra faire face à des défis techniques, plus intéressants pour lui que la peinture d'ailleurs. Il sera en charge plus tard de toutes les commandes picturales, un véritable privilège, alors que la peinture n'était pas vraiment ce qu'il affectionnait le plus. À côté de son travail, il aimait organiser des fêtes et d'autres célébrations. C'était un véritable bout en train qui était aimé justement pour cette inventivité et ce côté festif. Il n'a sa première grosse commande qu'à 30 ans. Un couvent lui demande une adoration des mages. Il la peint sans couleur, puis bizarrement, il disparaît avant de poser les couleurs. Il est parti à Milan. En fait, Léonard avait beaucoup de mal à achever ses œuvres. Il travaillait lentement et était un gros perfectionniste. Il y aura donc toute une grosse série d'œuvres inachevées. Et oui, être perfectionniste, ça ne date pas d'aujourd'hui. À Milan, Léonard se fait un nom comme ingénieur et non comme peintre. Il disait peindre comme n'importe qui dans ses lettres d'ailleurs. Il sera là-bas à l'origine de fêtes fastidieuses. Ludovic Sforza lui donnera un budget illimité pour celle-ci d'ailleurs. Donc cet homme, Ludovic Sforza, avait pris le pouvoir dans la région par la force. Les fêtes qu'il commandait à Léonard servaient donc à faire oublier ce léger détail. Durant ces fêtes, Léonard réalise des automates et joue d'ingéniosité dans ses créations, ce qui fait de lui un magicien aux yeux de la population locale. Léonard travaillera en tout 17 ans pour Sforza. La consécration au terme de ses 17 ans devait être pour lui de fabriquer un cheval cabré géant, fait tout de bronze, et devant être fait pour la gloire du père de Sforza. Malheureusement, la guerre grondait aux portes de Milan à l'époque, et tous les métaux étaient réquisitionnés pour faire des canons. Ce projet ne verra donc jamais le jour. Sa consécration se voit brisée de nouveau, sa déception est immense. Le 22 juillet 1490, Léonard fait une rencontre qui va changer sa vie. Sa route croise celle d'un garçon de 10 ans pour qui il aura une sorte de coup de foudre. Vu que l'enfant prénommé Giacomo a l'âge requis pour commencer une formation en atelier, Léonard lui ouvre les portes de sa bottega. Qu'on se le dise, cet enfant... Comment vous le dire ? À l'époque, les mœurs étaient différentes. Il n'est donc pas anormal pour l'époque que plus tard cet enfant devienne son amant. Eh oui! Cet enfant était d'ailleurs un véritable diablotin. Léonard l'appelait lui-même Petit Diable. Celui-ci volait, mentait et était capable de provoquer de véritables révoltes au sein de l'atelier. Malgré tout ça, Léonard ne se séparera pas de ce garçon qu'il nommera d'ailleurs Salaï. 1499. Milan tombe aux mains des Français. Sforza fit pendant que Léonard préfère offrir ses services aux Français. Ah bah bien la collaboration! Lorsque Sforza arrive finalement à reprendre la ville quelques mois plus tard, Léonard fuit la ville pour Venise. Cependant, sa réputation l'a précédé. Les Vénitiens ne lui font pas confiance, c'est une personne de sans attache, ce qui fait d'elle une personne dangereuse. On peut donc dire qu'il est rejeté. À 50 ans, il est à la recherche d'un employeur. Il est comme un fugitif, personne ne veut de lui. 1502. Léonard pense avoir trouvé un employeur à Rome, César Borgia. Celui-ci lui propose la place d'ingénieur militaire, une place que Léonard espérait depuis longtemps. Pour Léonard, c'est la consécration. À travers cela, son talent de cartographe va s'épanouir. C'est un talent méconnu. Et à côté de ça, il va imaginer de machines multiples, des multiples machines de guerre. Léonard quitte Borgia après l'avoir servi pendant 10 mois seulement. Il rentre alors à Florence, où il va se consacrer à ses recherches de machines volantes. En 1513, Léonard a 61 ans. Julien de Médicis lui propose de l'établir à Rome, au Vatican. Léonard accepte, mais c'est la partie la plus pénible de sa vie. Il va même attraper, durant cette période, la malaria. L'horizon de Léonard s'éclaircit lorsque François Ier, roi de France, l'invite à sa cour. En 1516, à 63 ans, il traverse les Alpes accompagné de son nouveau protégé, Francesco de Merci. Il emporte avec lui 3 tableaux, la Sainte Anne, le Saint Jean-Baptiste, qui est un portrait de Salaï, et la Joconde, que vous connaissez tous. Au château d'Ambroise, l'accueil qui lui est réservé dépasse toutes ses attentes. Le roi lui offre une demeure à quelques pas du château, le manoir de Clou. Il lui octroie une rente de 700 écus d'or, ce qui est une vraie fortune pour l'époque.
Léonard va donc vivre les 3 dernières années de sa vie là-bas. Il va entamer le classement de tout ce qu'il a fait depuis des années pour en faire un codex. Il meurt le 8 mai 1519. Selon la légende, il serait mort dans les bras du roi de France, ou selon une autre, il serait mort en train d'écrire. Merci donc d'avoir écouté ces chroniques histoires. Et désolé de m'être d'avoir autant bafouillé durant celle-ci. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9.
Merci Manon, on ne t'en veut pas trop pour tes bafouilles, ne t'inquiète pas. Il est 10h36 sur Radio Prévert, c'est l'heure de faire une pause musicale désormais. On écoute maintenant l'un des jeunes talents émergents de la scène française, Eddie Depreto, la fulgureuse Lady Gaga et le Québécois Olivier Dion. On parlera dans la dernière partie de cette émission médias et musique de publicité avec Valérie ce matin en direct et on ouvrira la traditionnelle page Le Saviez-vous avec Manon. A tout de suite donc.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois sans t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix. Et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas. De pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier, tu es plus fort que tout. Sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans. Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars, ne sois qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, ne donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Ça te froisse, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoulent. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal. Thank you.
Je cherche autour, jour et nuit, je te vois dans ma... ton prénom sur ma peau et sur mon cœur. T'as volé ma raison, t'as la clé de mon bonheur. Nuit et jour, je te cherche autour, jour et nuit, je te veux. Depuis que je suis fou de toi, c'est fou comme je pense à nous. Fou depuis toi et moi. C'est fou comme je me fous de tout. Depuis que je suis fou de toi, c'est fou comme je pense à nous. Fou depuis toi et moi.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. De retour sur Radio Prévert, toujours en direct, et on passe sans plus attendre à notre rubrique média. Et aujourd'hui, Valérie revient pour nous sur les musiques de publicité qui ont marqué le petit écran ces dernières années. Bonjour Valérie. Media News, la gazette consacrée à la télé, à la radio et à la presse écrite.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Radio Prévert, nous allons nous intéresser à la musique des publicités. En effet, la musique, elle détermine la tonalité d'une publicité, son rôle et son influence dans l'esprit des consommateurs. Qui ne s'est jamais demandé, c'est la musique de quelle pub ça ? On s'est tous questionnés pour en trouver l'interprète, en visualisant le spot, la marque du produit ou son nom. La musique de publicité, c'est un langage à part entière. Elle a une influence sensorielle et socioculturelle. Qu'importe le produit présenté, la musique, c'est un facteur de réussite, de notoriété. Elle est choisie par des professionnels avec des critères précis, spécifiques, car elle accompagne les images à l'écran. Elle apporte des éléments liés à l'émotion. Elle doit nous permettre de s'identifier au produit. Une musique de publicité peut ainsi marquer une génération, une époque. Elle doit être en cohérence totale avec le message visé, avec le public ciblé. Elle doit faire corps avec son contenu. Elle est stratégique. Pour exemple, une musique rythmée sera utilisée pour des pubs de voitures, de chaussures de sport ou des eaux minérales. Une musique plus douce, sensuelle, sera préférée pour des parfums ou du chocolat. Voici des extraits de musique pour la marque Perrier, où l'on retrouve en 1983 notamment James Brown et son célèbre Sex Machine. On écoute l'extrait. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. En 1991, toujours pour Perrier, Hawkins Screaming Jab, avec le titre « I put a spell on you », une des premières publicités où est utilisée la technique du morphing. Une mâchoire de femme se déforme pour effrayer un lion. On écoute l'extrait.
« I put a spell on you. Because you're mine. » things you do. What's up?
En 2000, la mélodie d'Andreas Johnson, Glorious, est utilisée pour la publicité de la plus célèbre pâte à tartiner, Nutella. Dans les années 2000, le compositeur et interprète Moby connaît un accélérateur de gloire avec ses musiques qui semblent avoir été écrites sur mesure pour des spots publicitaires. On écoute Natural Blues pour la pub Maxwell. Et maintenant, Lift Me Up pour Bouygues Telecom. Flower pour Seat. Lie Down Into Darkness pour Hugo Boss. Pour terminer, Graciosa pour Alfa Romeo. En 2016, Jane, une jeune artiste toulousaine, connaît un succès retentissant grâce au groupe de téléphonie Orange qui choisit d'accompagner ses spots publicitaires pour Soch avec son titre Makeba. Puis ce sera Levis l'année suivante. Jane connaît alors un succès international. On écoute un extrait. En 2017, le titre de Jane, Come, sera choisi par Renaud. On l'écoute. Come, my baby, come, my Cette même année 2017 sera également marquée par le tube Feel It Still, interprété par Portugal The Man et utilisé par Toyota, un succès fulgurant pour cet artiste. On l'écoute. De même, en 2017, le groupe Peugeot choisit la musique de John Newman, Love Me Again, pour la publicité de son modèle 5008. Un véhicule traverse une porte interdimensionnelle pour se retrouver dans un autre monde, sur un pont. Une baleine saute par-dessus la voiture. On écoute l'extrait. Voilà, cette rubrique est terminée et vous a certainement rappelé des souvenirs. Bonne journée à tous, restez à l'écoute de Radio Prévert 105.9.
C'était Media News sur Radio Prévert 105.9. Merci Valérie, une émission sous le signe de la musique aujourd'hui. Il est 10h59, bientôt 11h, on referme cette matinale avec la dernière chronique, le traditionnel Le Saviez-Vous, avec toi Manon.
Le Saviez-Vous ? Les anecdotes les plus insolites et tout ce que vous ne saviez pas, c'est maintenant sur votre fréquence. Il est l'heure de terminer la matinale avec le traditionnel Le Saviez-Vous. Aujourd'hui, trois anecdotes insolites ou dont vous ignorez l'existence. On va commencer avec l'archipel Tristan d'Acona. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un archipel, c'est un ensemble d'îles déjà. Voilà, c'est bien de le préciser. La seule île habitée est Tristan d'Acona, donc le nom de l'archipel vient de l'île. Cette île est l'île habitée la plus isolée du monde. Il n'y a sur cette île que 267 habitants et ils sont quasiment livrés à eux-mêmes. La terre la plus proche est l'île Sainte-Hélène, et encore, elle est à 2500 km de là. Quant au continent le plus proche, il s'agit de l'Afrique, qui est à 2800 km de distance. Quand je dis que c'est la plus isolée, je ne rigole pas. Pour rejoindre cette île, il faut prendre le bateau. Il n'y a pas d'aéroport ou d'autres transports. Les liaisons se font via bateau de pêche, ceci allant au Cap en Afrique du Sud. Il n'y a pas de liaison fixe, elles se font donc au petit bonheur la chance. Pour aller au continent le plus proche, il faut 5 jours de bateau. Donc, par exemple, si vous décidez d'y aller, alors je sais pas pourquoi, mais vous décidez d'y aller en vacances, vous pouvez très bien arriver le 2 février, par exemple, et il n'y aura pas de liaison avant le 3 mai. Voilà. On continue avec une éruption volcanique. Et là, je vais vous parler de la montagne Pélée, en Martinique, qui a été l'éruption... où il y a eu l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle. Le 8 mai 1902, il y a eu une énorme éruption où la ville Saint-Pierre qui était au pied du volcan a été détruite en seulement quelques minutes. Elle a coulé une quinzaine de navires marchands également. Les habitants ont tout simplement été exterminés par la lave, par les nuées ardentes. Environ 30 000 personnes sont mortes. À la fin, il n'y avait que 3 survivants. Ironie de l'histoire, le gouverneur de la Martinique n'avait pas jugé nécessaire à l'époque de faire évacuer la ville avant l'éruption. Il est mort durant celle-ci, du coup. Le karma nous rattrape toujours. Pour terminer, j'aimerais parler d'un animal dont vous ignorez sans doute l'existence. Il s'agit du saola. Le saola n'a été observé pour la première fois qu'il y a 25 ans, en 1992. Ce n'est en plus pas un petit animal, c'est un bovidé de 100 kg. Donc il faut imaginer que c'est une belle bête. Hein. Il a quasiment disparu des radars. On ne le voit pas, tout simplement. Depuis 1999, seulement 2 individus ont d'ailleurs été vus. Ils vivent, d'après les informations, dans la cordillère Anamitique. Donc si vous ne savez pas où c'est, la cordillère Anamitique, ça se situe à la frontière entre le Laos et le Vietnam. La population de cette espèce, selon un scientifique, ne serait que d'environ 100 individus. C'est donc extrêmement peu. Donc nous avons terminé « Seul le saviez-vous ». J'espère que ces informations vous auront intéressé. C'était « Le saviez-vous » sur Radio Prévert 105.9.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Manon.
Merci à toi Stéphane.
On vous donne donc rendez-vous mercredi prochain en direct pour une nouvelle matinale sur l'antenne de Radio Prévert 105.9. Et on vous souhaite une bonne journée malgré la pluie. Allez, à la semaine prochaine et à bientôt.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Whoa. Good morning. And
good morning, Radio Prevent.